Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 85e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Un Caféine en petite forme cette semaine.
Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Je suis au taquet, je vais faire l'émission les yeux fermés, ça va bien se passer, je vais me mettre dans une ambiance cosy, mais tout seul, tu vois. Ah, j'ai des petits nains qui creusent des trous dans ma tête apparemment. J'ai très très mal au crâne et je n'ai pas de migraine d'habitude. Il y a des gens qu'on sait régulièrement, donc ouais. Je suis très surpris, je n'aime pas du tout en fait.
Non, c'est pas cool, je te confirme.
2 sur 10 ou not do again, hein. Mais la chier.
Allez, on va essayer quand même de tenir vivant jusqu'à la fin de cette émission. On va attaquer avec le gaming. Je voulais vous parler de Borderlands 3. Alors, pas tellement pour vous parler de Borderlands 3, mais pour vous parler de la polémique qu'il y a autour, parce qu'on en a beaucoup parlé sur les Discord de Geekzone hier.
Vous avez trop de temps libre, les mecs.
C'est ça. Et bon, moi, je comprends pas trop. Alors, on refait un peu le point sur Borderlands 3. Donc, il avait été annoncé le 28 mars dernier, d'abord sans date, sans prix. Puis finalement, on a eu l'info ce mercredi. Et 2K Games et Gearbox ont donc décidé de sortir le jeu le 13 septembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Et là où ça coince, enfin pour certains, c'est que le jeu sera donc une exclusivité du Epic Game Store pendant 6 mois. Ça veut dire que si tu veux y jouer sur Steam, faudra attendre avril 2020. C'est une exclu de plus pour Epic, c'est pas la première, hein. Il y en avait eu d'autres, il y a eu Control, Metro Exodus, j'en passais des meilleurs. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, je peux pas m'empêcher d'y voir une bonne chose, un peu de concurrence pour Steam, ce qui va les obliger quand même à se sortir un peu les doigts, ce qui était pas trop le cas ces dernières années. Mais du coup, je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que c'est ça t'inquiète, comme j'ai pu le lire sur certains threads ou des gens qui vraiment trouvent que non, ça va pas du tout. Rendez-moi mes clés Steam. Je veux pas aller chez Epic. C'est pas bien.
Mais le problème, c'est pas la concurrence en tant que telle. Oui, très bien. La concurrence quand elle est saine et intelligente avec des bons produits, genre le launcher de GOG, pourquoi pas. Le problème de l'Epic Game Store, c'est que c'est de la grosse merde. Et si tu veux, là pour le moment, c'est de la concurrence pour les mauvaises raisons. En tout cas, c'est mon analyse à moi, c'est que les mecs arrivent avec le carnet de chèques en disant bah tu vas gagner plein d'argent, c'est cool, et puis on va t'en prendre moins, donc tu vas en gagner encore plus, viens chez nous. Donc la négociation d'un point de vue économique, elle est vite faite, si tu veux. Maintenant et là où je pense que c'est pas forcément un bon calcul pour les mecs qui font les jeux en question, c'est que le produit est pourri et que les gens sont pas contents de l'utiliser. Pour plein de raisons, parce que c'est un produit hyper limité actuellement et qui ne permet pas de faire plein de choses du côté du joueur, du côté de l'éditeur, c'est tout bénef. On en a déjà parlé, hein. Tu peux relinker sur ton site, tu peux faire plein de trucs que tu peux pas faire avec Steam pour construire ta communauté en dehors du store lui-même. Mais la problématique, c'est que le produit, encore une fois, est pas mature et que bon bah il y a plein de petits problèmes, tu peux pas bouger tes jeux de drive facilement, enfin il y a plein de trucs que Steam a rajouté au fil des années qui sont évidemment absents de cette version. Ouais, alors ça va être rajouté, les mecs de chez Epic promettent monts et merveilles, n'est-ce pas? Enfin, ils vont pas te dire ça va rester de la merde et pour toujours.
Clairement.
Mais franchement, c'est pas, oui, ça, je comprends que les mecs soient vénères, et puis derrière il y a un truc où là faut pas être con non plus. Il y a des gens qui ont pris leurs petites habitudes, qui sont dans leur charentaise bien chaude et qui ont pas envie de changer leur client Steam et leur petite config avec leur barre de potes à côté, tu vois.
Ouais, mais c'est alors bien. Ça, bon. Tu vois, je peux comprendre, autant ça je peux comprendre, mais dans ce cas-là,
c'est une mauvaise raison aussi. Voilà. Enfin, je veux dire, faut évoluer.
Ferme sa gueule sur la concurrence dans ce cas-là, quoi. Tu
mais
vois,
ouais, mais enfin, si tu veux, je pense qu'il y a, des arguments qui viennent de mauvaises raisons des deux côtés, et du côté économique, et du côté des joueurs, et du côté d'éditeurs, etc.
Du point de vue d'Epic, ça se comprend dans le sens où, s'ils veulent aller lutter contre Steam aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir des excuses. Je vois pas d'autres moyens pour eux de percer sur le marché des stores. Donc,
eux, ils ont béputation, Epic a pas de race. Enfin, je veux dire, faut arrêter deux minutes. Quand tu regardes l'histoire de la boîte et ce qu'ils ont fait, etc. Il y a pas de problématique. On sait très bien que les mecs qui sont là pour gagner du fric, des parts de marché, et ils ont qu'une raison de se gêner et de pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont les moyens de le faire.
Clairement.
Évidemment qu'ils vont aller à la castagne. Maintenant, moi j'ai vu des trucs plutôt ambiance bien moche avec des gars qui sont généralement américains. Tu sais que l'Amérique et la Chine, ça se passe bien.
Ouais.
Et tu sais qu'il y a 40% d'Epic qui appartient à Tencent. Ah, donc forcément, il y a des mecs qui font genre, bon, déjà, c'est des putains de traîtres à la cause, c'est pas des ricains, nanana, machin. Alors là, on rentre dans des débats, si tu veux, qui dépassent largement le jeu vidéo et le cadre du gentil launcher de jeu vidéo, justement. J'irai pas mettre les pieds dans cette fange, mais il y a des gens qui ont des motivations qui sont bien éloignées des problèmes d'exclus du jeu vidéo, si tu veux. Donc, bon, moi, si je m'en tiens juste à la qualité du produit, je peux comprendre. Et franchement, j'ai pas envie, moi personnellement tout seul, ça m'emmerde aussi, mais ça m'emmerde pour des raisons et de charentaise et de c'est de la concurrence à coup de gros chèques et j'aimerais que ça se joue plus que, du côté de la qualité des produits que dans les back-office, genre à coup de tiens, tu vas gagner plus de millions, ça va être
ouais.
Génial.
Bah écoute, on verra ce que ça donne, on verra si les promesses d'amélioration du client seront tenues, maintenant qu'ils commencent à choper probablement un petit peu plus de monde, enfin j'imagine qu'avec Borderlands ils vont ramener un petit peu de gens sur le store, on verra s'ils tiennent leurs promesses de ce côté-là, et puis sinon eh ben, on attendra 6 mois pour aller jouer chez Papa Steam, comme d'habitude. Je voulais juste terminer là-dessus en disant qu'il y aura une présentation du gameplay le 1er mai en direct, j'imagine sur Twitch, mais j'ai pas les infos, on vous linkera un papier de Gamekult qui résume un peu tout ça, et puis on va être continuons dans le gaming avec des news de Monster Hunter World et une nouvelle mise à jour.
Ça faisait longtemps. Hein.
Bah ouais.
Ça fait longtemps. J'avais pas tué du gros monstre depuis un moment, je vous avoue.
C'est vrai.
J'avais rangé mes épées, mes gros marteaux, tout ça. Alors je vais peut-être les ressortir pour voir la gueule du patch. Donc il y a un patch qui est sorti hier, dont je n'ai pas joué puisque nous sommes en train d'enregistrer au moment où il sort, à mon avis. C'est l'update 5.2 et je voulais en parler. Pourquoi ? Parce que bon, il y a plein de conneries qui ont été corrigées, rajoutées, etc. Des trucs de quality of life, comme on dit. Mais moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est l'arrivée des textures HD, mais les vrais HD sur PC avec 40 gigas de textures, les enfants.
Ok.
Donc, ça va commencer à faire quelques gigaoctets pour le jeu sur votre disque dur. Et la blague, c'est qu'il faut 8 gigas de RAM vidéo pour pouvoir utiliser le truc à fond.
Ok.
À tel point qu'ils ont rajouté une jauge dans les settings. On avait ça dans pas mal de jeux déjà, hein, où plus tu coches des options et plus ça monte et plus ça te dit bon, là, il y en a plus. Là,
ça va être trop chaud là.
Voilà, ça scanne ta carte graphique et ça regarde à quel moment elle va déborder en fait. Et ça te dit non, cette option là, tu vas la décocher tout de suite, mon garçon, parce que ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, c'était juste pour les mecs qui voulaient rigoler. Alors j'ai regardé les screenshots. Il y a la patch note de Steam justement qui est linkée avec le billet du podcast. Mmh. Qui justement montre un peu les améliorations et bon, je vais aller voir hein, par curiosité, mais je ne suis pas certain que ça mérite 40 gigas et les mecs préviennent quand même que attention, ça va ramer un petit peu peut-être sur certains PC et il faudra pas être surpris. Donc vu comment le jeu était moyennement optimisé dans certains combats, enfin c'était plus des problèmes de shader que de texture, je suis pas certain que ça tourne chez tout le monde. D'ailleurs c'est bien marqué en gros, hein, ils s'attendent pas à ce que ça tourne chez tout le monde, mais ils veulent faire plaisir à la communauté, donc bon bah c'est une bonne chose. Et
ouais,
puis c'est gratuit.
Voilà, c'est gratuit, c'est l'occasion de reparler un peu du jeu. Voilà.
Et surtout qu'il y a plein de patchs qui arrivent, hein. Il y a plein de choses, il y a du contenu qui continue d'arriver. Franchement, il y a quand même pas mal de belles choses, mais plutôt prévues pour l'automne. Moi, j'avais dans ma tête, il me semblait que ça sortait plutôt que ça, mais un ami qui s'occuperait peut-être des relations de presse de Capcom m'a rappelé que en fait pas du tout, c'était vachement plus tard. J'étais là genre merde. Moi qui voulais tuer des gens, enfin des monstres, des gros monstres. Donc voilà, puis on a été faire 2-3 events avec l'ami Fox en début d'année, mais j'ai vu qu'on n'y a pas beaucoup rejoué en ce moment. Mamadrox, c'est plutôt Apex qui, d'ailleurs, je l'ai pas mis sur la conduite, mais Apex en a fait une jolie hier qui a fait pondre plein de news à mes copains journalistes sur les internets multimédia, alors que le bug a duré, accroche 3 heures. Bon, alors okay. Le bug était un peu pénible, hein. Les gens sont connectés, ils avaient tout perdu, tu vois, ils étaient level 1, les trucs qu'ils avaient achetés étaient plus là et tout, donc ça a un petit peu paniqué, ouais, les gens fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est passé que le dernier patch qui est sorti, ils avaient eu un problème de routage de serveur, ouais. Et en gros, t'étais connecté sur des serveurs où il n'y avait pas tes informations, c'était pas les bons profils qui étaient loadés, en fait. Donc, bah oui, ça a un peu foutu la merde, mais ils ont géré ça demain de mettre en 3 heures.
Petit moment voilà. Flip quand même, j'imagine.
Ah bah, pour les joueurs et pour les mecs de chez Respawn, à mon avis, ça a été assez sympa. Mais bon, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont corrigé encore plein de choses. Apex, c'est de la balle. Jouez-y, même si les gens qui sautent avec vous sont pénibles, parfois. J'avoue.
Allez, on passe du côté des apps avec la sortie, enfin, ça y est, de Spark sur Android.
Oui, Spark, le petit client mail que j'aime beaucoup, ouais. Qui cartonne sur iOS et macOS, puisque je ne connaissais pas les chiffres, mais donc là, on annonce quand même plus d'un million de personnes utilisant ce logiciel sur la plateforme d'Apple, enfin, dans les écosystème d'Apple en tout cas, et du coup je me suis dit tiens, évidemment sur Android ça va cartonner, parce que bah, la base installée d'Android étant ce qu'elle est, normalement ça devrait bien marché. Il y a quelques concurrents, mais les plus intéressants et ceux qui étaient les plus jolis, les plus sexy, sont plus forcément de la partie sur Android. Ils sont soit morts, soit été rachetés par des boîtes un peu chelous qui vous mettent de la pub, tout ça. Le business model de Spark, c'est pas du tout ça. J'ai fait une news cette semaine sur Geekzone, allez la lire. Et il y a surtout, évidemment, tout un petit paragraphe. Enfin, il y a surtout beaucoup de liens sur le côté sécuritaire de l'application. Parce que le problème sur les clients mail, c'est qu'il y en a certains qui font transiter leur mail sur leur serveur parce que c'est plus pratique pour pouvoir gérer les push, tout ça. Donc eux, ils ont tout un système qui leur permet d'avoir le minimum d'informations sur vous parce que ils ont bien conscience des risques et de la responsabilité que ça incombe et ils veulent absolument pas s'en occuper. Enfin, je veux dire, ça fait chier tout le monde. Donc ils veulent vraiment prendre le minimum pour pas avoir de soucis. Et vous verrez, c'est très bien expliqué. Ils sont transparents à ce niveau-là. En revanche, écoutez, je crois qu'il y a un ami belge qui fait ce podcast avec moi qui a un problème avec la version.
Oui.
Mais, donc t'as un vieux téléphone, on rappelle.
Ouais, j'ai un vieil Android avec un vieil OS. Je dois être à la version 7 ou même 6, je sais plus. Enfin, donc je suis vraiment super largué. Mais
je crois que
j'imagine
que à la 5 peut-être même.
Ça va toucher un paquet de gens aussi. On connaît le problème de renouvellement des OS sur Android. Donc les gens qui comme moi ont un vieux téléphone, faites gaffe, testez d'abord avant de désinstaller votre client mail actuel, parce que moi il plante, mais genre tout le temps. Donc il se ferme. En fait, pas de message d'erreur, rien du tout. Le truc se ferme et voilà.
Mais
depuis que j'ai
rebooté
tout à l'heure, je peux pas les faire malheureusement sur mon téléphone. Je suis bloqué. Donc j'ai rebooté le téléphone depuis et ça a l'air de tenir un peu mieux. Donc j'ai pas pu du coup vraiment tester le soft et te dire ce que j'en pensais. Mais hier j'étais un petit peu déçu parce que chaque fois je lançais en fait et qu'il faisait la mise à jour des mails, il se fermait tout simplement. Il avait pas envie en fait. Il a dit non, t'as une version trop dégueulasse d'Android. Moi je veux pas travailler.
Bon alors moi je tiens à préciser que je l'ai installé sur un Nexus 5 de 2013 avec un OS, une ROM qui est complètement bidouillée hein, que j'ai remis dessus pour accéder à. Je dois avoir la version 8 d'Android là-dessus, ce qui est déjà une prise de risque sur ce genre de bécane, mais ça tourne plutôt bien. Et le soft fonctionne. En revanche, ce que j'ai pas eu le temps de dire dans la news d'hier parce que je m'en étais pas rendu compte, c'est que la synchro de la nouvelle plateforme, ils ont toujours eu un problème de synchro même de iOS à iOS quand tu rajoutais une machine. De temps en temps, ça faisait sauter des settings, tu sais pas trop pourquoi. Genre ta liste de favoris, des folders, tu peux mettre des folders mail en favoris en fait dans leur interface, tu peux avoir des alias préprogrammés, etc. Et ça me les a fait sauter et le reste était bon, les comptes mail étaient là, etc. Donc c'était là, genre, t'as l'impression qu'il change les formats de certaines sauvegardes et qu'à un moment il fait ça, je comprends pas, je le mets pas. Donc c'est un petit peu pénible, donc je préfère prévenir les gens si jamais ils ont une petite merde à ce niveau-là. Et d'ailleurs, petite astuce, quand vous avez un vrai problème de synchro avec ce logiciel, comme souvent avec ce type de logiciel sur iOS, voire Android, j'imagine que c'est pareil, n'hésitez pas en fait à virer l'application et à la réinstaller complètement, parce que c'est le seul moyen de virer tous les caches, tous les trucs qui sont partis un petit peu à volo. Et quand vous allez la réinstaller, comme toutes les l'appli est synchronisée, en fait, la réinstaller complètement, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait généralement tout rentrer dans l'ordre.
On va parler de Infuse avec la sortie de la nouvelle version, la version 6. Tu nous rappelles ce que c'est en deux mots pour les gens qui connaissent pas Infuse? Toi, tu es amoureux.
Infuse, c'est un lecteur vidéo, pour faire simple. C'est un lecteur vidéo tout con avec un système de bibliothèque qui est beaucoup moins con pour le coup et qui, dans la version 6, en fait un produit qui vient concurrencer en fait des choses comme Plex, par exemple, qui vient concurrencer des Kodi, qui commence à avoir des trucs assez impressionnants. Gestion des sous-titres automatisés, ils ont plus un deal avec Open Subtitle, je crois, où il n'y a pas de pub dans les sous-titres, etc. Et ça marche très bien. Ils ont une gestion des métadatas des vidéos, donc ça reconnaît les noms de vos folders, les noms des fichiers vidéo, etc. Et ça va vous chercher les bonnes infos, les jolies jaquettes sur le net, tout ça automatiquement. Et en plus, il est compatible avec les serveurs Plex. Donc si vous avez déjà un serveur Plex, mais que vous n'aimez pas le client Plex, bim, ça va fonctionner. Ça synchronise tout. C'est-à-dire que ça va synchroniser la lecture des vidéos. Si vous repassez sur un client Plex sur une autre machine, ça va reprendre au moment où vous avez arrêté telle ou telle vidéo. Donc c'est vraiment efficace, ça marche super bien. Ils ont rajouté le gros truc qui manquait, c'était la synchronisation entre client Infuse des métadatas. Donc avant, il fallait, t'avais le soft sur ton iPhone et sur ton iPad, il fallait updater les librairies de leur côté sur chaque device, si tu veux.
D'accord.
Ce qui était ultra pénible parce que ça prend des plombs. Mais comme chacun sait, quand ton téléphone se met en veille, il fait moins les updates en fait, tu vois. il travaille vachement moins quand l'écran s'éteint. Et bah, du coup, là, il va chercher les infos. Une fois qu'il a fait le travail sur un device, il va tout coller sur iCloud et il va récupérer les infos. Donc, ça marche plutôt bien. Je suis assez satisfait. J'ai pas vu de gros bugs. Bon, après, si vous avez des gens qui ont vidéo qui fonctionnent, c'est pas révolutionnaire. Mais l'avantage de celui-là, par rapport à tout ce qui est dispo sur les plateformes Apple TV ou iOS, c'est que tu as vraiment un client vidéo qui fonctionne ultra bien avec un scrubbing dans la vidéo parfait. Le scrubbing, c'est, tu sais, quand tu fais avance-retour et que tu joues un peu avec ta vidéo parce que tu cherches une séquence, un truc machin que tu veux re-regarder. Mm-hmm. Ça marche très 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 bien, c'est très rapide. Évidemment, ça gère tous les formats de la planète. Ils avaient déjà un des lecteurs qui marchait le mieux, mais dans la V6, ils l'ont encore amélioré. Et puis, ils étaient un petit peu obligés puisque des gens comme Plex ont intégré des lecteurs vidéo beaucoup mieux dans leur dernière version également, puisque maintenant dans Plex c'est MPV, donc ça marche très très bien. Donc voilà, ils ont leur propre truc, mais c'est un des meilleurs. En tout cas, franchement, ils sont d'une efficacité redoutable. Ils gèrent AirPlay 2 maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, et le produit est pas très cher. Donc je vous laisse regarder sur le billet que j'ai fait sur Geekzone cette semaine, parce qu'il y a plein de licences différentes, mais en gros ça va de 10 balles par an. Alors attention, hein, 10 balles par an, c'est le vrai prix. Il y a souvent des promos. Je garderai un œil. Par exemple, moi, j'ai une promotion avec un prix verrouillé à 5,50€ par an. Tu vois, donc dans la série abonnement pas cher, ça va.
Oui, ça vaut le coup. Oui.
Vous pouvez lâcher 5,50€. C'est le seul qui me sert à scanner mon répertoire à trier depuis l'Apple TV. Tu vois, et c'est le seul qui puisse le faire aussi facilement. Donc c'est très pratique. Mais sinon, le prix de base, c'est 1€ par mois. Et il y a une licence à vie pour les gens qui n'aiment pas les abonnements. Pour 60€, vous êtes assuré d'avoir le produit. Pour toute sa durée de vie, et comme le truc est quand même date de 2013 maintenant, donc ça fait 6 ans qu'il bosse dessus, je pense que vous ne perdrez pas votre argent tout de suite si vous n'aimez pas les abonnements.
Et on va reparler de Twitch qui décidément a du mal à faire valoir son app intégrée, son app officielle, puisque encore une alternative pour Android TV cette fois-ci.
Ouais, en fait, c'est un truc que je connaissais pas, et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser dans la news, mais je l'ai lu sur Discord, il me semble, ou sur le forum, enfin quelqu'un en a parlé, c'est quelqu'un de notre communauté qui a remonté le nom de l'application que je ne connaissais pas. Mmh. Et ça tombait bien parce que j'en pouvais plus de l'appli intégrée Android TV, l'appli Twitch de base qui est vraiment pas folle, quoi. Et celle-là, comme le petit Twitchy TV, Twitchy c'est un truc pour Apple TV, il n'y a pas de client officiel sur Apple TV, hein, merci Amazon. Heureusement qu'on a des petits Français qui ont fait un soft qui est excellent sur Apple TV, mais du coup j'étais frustré parce que l'appli officielle côté Android et Shield TV était moins intéressante que le truc fait par des gars dans leur chambre. Donc bon, je me dis, les mecs, vous foutez un petit peu de notre gueule. Donc Sound TV, alors je sais pas comment ça se présente, hein, c'est peut-être Sound, parce qu'en fait c'est S0UND TV si vous utilisez la recherche du
Play Store. C'est écrit à la lite, comme on dit.
Exactement, mais comme il y a plein de gens sur Reddit qui te font, je comprends pas, je trouve pas l'appli, parce qu'en fait ils tapent S-O-U-N-D, forcément ça marche moins bien.
C'est pas une question de référencement, tout simplement.
Oui, bah déjà, mais en plus le Play Store, la recherche du Play Store, si tu veux, de Google, elle est très variable. Je sais pas des fois comment ils remontent les résultats. Il y a tellement d'applications qu'il a un peu du mal, le pauvre. Mais donc tout ça pour dire que là, je vous ai mis le lien qui va bien, quoi qu'il arrive. Mais si vous tapez avec le zéro, le référencement marchera beaucoup mieux. Qu'est-ce qui change par rapport au client officiel? Fondamentalement, pas grand-chose. Hein. Vous êtes toujours là pour regarder des streams vidéo. Alors les pubs, forcément, sont pas forcément displayed, sont pas forcément affichés avec ce client-là. Mais j'en ai même pas parlé dans la news parce que c'est pas du tout ma motivation principale. Moi, un truc que je ne supporte pas, par exemple, avec le client officiel, c'est que j'ai la fibre. Je commence à regarder un stream sur l'appli officielle et une fois sur deux, je suis en 720p dégueulasse au mieux si tu veux au démarrage du stream. Et après, le truc se dit, il a de la bande passante, on va peut-être lui augmenter sa qualité. Et tu peux pas forcer ça, tu vois. Enfin, t'es obligé d'aller dans le menu, il faut le faire par stream. Enfin, il fait sa vie les trois quarts du temps, même quand tu lui as dit, non, c'est bon, tu peux me mettre du 1080, tu peux me mettre la qualité source, il n'y a aucun problème. Donc là, tu peux forcer le truc et ça marchera à chaque fois. L'interface est extrêmement rapide. Et en plus, tu peux retrouver le classement avec le nombre de spectateurs par stream. Alors je sais bien que Twitch ne veut pas mettre en avant ce genre de truc parce que sinon les gros deviennent encore plus gros et puis il est impossible de découvrir les petits nouveaux streamers. Donc je sais bien pourquoi le client Twitch de base met un petit peu n'importe quoi en avant, mais justement moi j'en ai rien à foutre, je sais ce que je voulais regarder, donc quand je sais ce que je veux regarder, laissez-moi tranquille, tu vois, parce que l'option n'existe même pas dans le client officiel, donc je trouve ça extrêmement pénible. Et là, du coup, ça marche très bien. Tu récupères un classement logique, un petit peu ce qu'on demanderait, tu vois, à un Twitter Twitter ou un Instagram, d'arrêter d'essayer de trier nos produits, enfin nos posts, et de nous laisser regarder les trucs comme on veut.
Exactement.
Ça serait pas mal. Donc voilà, c'est ce que fait ce soft, parce que je crie beaucoup et je gueule sur Amazon, mais ils savent pas coder une appli, mais en revanche les API sont toujours disponibles. Donc c'est ce qui permet en fait à ces logiciels d'exister, sinon ça serait juste impossible. C'est pour ça que toutes les copies entre guillemets d'Instagram sont dégueulasses, c'est que les mecs sont obligés de bricoler, alors que là il y a vraiment une API officielle sur lesquelles les mecs peuvent se connecter et faire leur sauce, quoi.
Voilà, donc Sun TV, on vous linkera le papier que tu as écrit cette semaine sur le logiciel. Et puis on va parler très rapidement, parce qu'on est déjà à 20 minutes, de deux séries télé dont je voulais vous parler, une pour vous la recommander et l'autre pour vous dire de pas perdre votre temps. Black Monday, je sais pas si t'en as entendu parler.
Pas du tout.
C'est une série Showtime diffusée depuis fin janvier 2019 et qui vient tout juste de se terminer là le 31 mars avec notre ami Don Cheadle qui raconte donc les événements du 19 octobre 1987, c'est-à-dire le Black Monday, le jour du pire crash boursier de l'histoire de Wall Street. Un crash dont on ne connaît toujours pas les raisons aujourd'hui, et donc les scénaristes se sont dit, nous on a une idée, on va vous raconter ce qui s'est passé vraiment. Alors c'est forcément une comédie un peu noire, donc c'est assez délirant. C'est produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui avaient déjà produit Preacher et Future Man, pour vous donner une idée du ton. Le showrunner est David Casp, qui avait bossé sur Happy Endings, et donc la série raconte les 365 jours qui précèdent le crash en 10 épisodes, avec un Don Cheadle au meilleur de sa forme. Moi il me fait beaucoup rire, et tout le cast est assez génial, mais forcément c'est très très délirant, c'est parfois un peu vulgaire, donc voilà, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi ça m'a bien fait marrer, et comme en ce moment j'avais tendance à regarder un peu des trucs dark et serious, je me suis dit tiens, une petite série détente là, ça fera du bien. C'est 10 épisodes, ça se regarde assez vite puisque c'est des épisodes de 25 minutes, donc voilà, si vous voulez vous faire une petite série rigolote avec l'ami Don Cheadle, je recommande Black Monday.
Mais alors tu dis que c'est le plus gros crash de Wall Street, c'est ça?
C'est le jour du pire crash boursier de l'histoire de Wall Street.
Mais il n'y avait pas Wall Street en 29?
En 29?
Bah, le crash de 1929.
Bah, apparemment, c'était pire en 87.
Écoute, ouais, moi, c'est d'accord. Ce que j'ai lu. Ok, je vais aller sur les internets multimédia et me cultiver.
Je vais te dire un truc, c'est pas avec cette série-là que tu vas avoir une vraie réponse à ta question.
Non,
parce
non,
que
mais
c'est pas non plus.
C'est pas la série, de toute façon, je la regarderai pas, mais c'est vrai, je vais vraiment aller regarder Wikipédia en revanche, parce que je savais même pas qu'il y avait un crash en 87, c'est pour te dire à quel point ça. Je ne suis pas au courant de ces choses, j'ai honte.
Moi non plus, en fait. Donc si ça se trouve, il n'y en a pas eu, c'est un crash fictif et on est en train de raconter de la merde. Donc voilà, bref.
Tu t'es
verra.
Bien fait avoir par la campagne marketing de Black Monday, mon gars.
Merci pour les questions, caféine. et puis je voulais vous parler très très vite de Twilight Zone, on ne présente plus, hein, donc anthologie basée sur la série originale de 1959 créée par Rod Serling. C'est déjà le troisième revival, il y en avait eu un en 85 et en 2002, et cette fois-ci, alors c'est supervisé à la fois par Jordan Peele, et ça c'était plutôt pour me rassurer, Jordan Peele celui qui a fait Get Out, qui a fait Us récemment, mais aussi par Simon Kinberg, le monsieur qui est responsable de la catastrophe X-Men chez la Fox. Donc le résultat il est assez mitigé quand même, hein. Pour le moment il n'y a que deux épisodes et c'est plutôt une grosse déception. Il y a un gros budget, un gros travail niveau casting, mais les deux histoires proposées sont finalement assez bof, et dans les deux histoires il y a un remake d'une histoire qui avait déjà été proposée dans la série originale de 59, donc on sent un petit peu que les mecs se sont pas trop fait chier non plus, donc reste à voir ce que donneront les autres épisodes. Je vous passe les détails, hein, je vais pas vous raconter l'histoire, vous avez qu'à regarder ces deux premiers épisodes et vous faire un avis par vous-même,
ou alors le faites pas. Allez regarder que, la série de 59.
Voilà, sérieusement il y a des choses plus intéressantes à voir à la télé en ce moment, mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a eu une grosse campagne de marketing, ça a été plutôt poussé par le network, et puis au final c'est quand même une grosse déception, donc de Twilight Zone, à moins que ça ne reparte vraiment avec qualité dans les prochains épisodes, on vous en reparlera peut-être, mais sinon je pense que vous pouvez clairement passer votre chemin. Et puis on va passer du côté nous de la tech, puisqu'il y a des nouvelles du côté de notre bon vieux clavier AZERTY. Alors j'ai fait une petite news cette semaine pour vous annoncer donc l'arrivée d'un nouveau layout en fait pour le clavier AZERTY. Alors c'est une recommandation, CAF, c'est pas vraiment un truc obligatoire qui va tout changer tout de suite chez les constructeurs, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. L'idée c'est d'améliorer en fait le clavier AZERTY pour le rendre plus facile d'utilisation quand on a une langue comme la langue française où on a besoin d'avoir des accents par exemple sur les majuscules, ce qui est un truc qu'on peut difficilement faire aujourd'hui avec le clavier.
Ouais, c'est pas le truc qu'ils ont mieux amélioré dans la nouvelle version, c'est moins pire mais c'est pas parfait. Hein.
Mais ça fait partie des trucs qui moi m'intéressent en fait, c'est pour ça que j'en parlais, mais effectivement il y a d'autres avancées, on va dire, en replacement de certaines touches, les ligatures qui ont été déplacées, donc le E dans O et le E dans A qui ont été déplacés donc sur les touches O et A, ce qui est logique, déplacement du tilde aussi qui est désormais sur la touche N, ça c'est plus pour l'Espagne, et comme je le disais, donc les majuscules accentuées qui moi est un truc qui m'intéresse, mais toi du coup tu vois quoi comme ajout intéressant
en fait
de ce nouveau clavier?
La problématique, c'est que au-delà, bon, on parlera de l'adoption après, mais sur le boulot qui a été abattu, parce que les mecs, ça fait 4 ans qu'ils sont sur l'histoire. Le boulot abattu est quand même très intéressant parce que bon, l'AZERTY classique habituel, celui qu'on a, il est vraiment pourri. Hein, faut quand même pas l'oublier, avec énormément de touches qui ne servent à rien et des touches qui sont des positions juste aberrantes. Je veux dire, il y a qu'à savoir. Enfin, le point qui n'est pas en accès direct pour écrire, c'est quand même un truc qui est juste magique. On doit être une des seules langues à avoir ça. J'en sais rien, j'ai pas vérifié, mais ça m'a toujours rendu fou. Du coup, ils ont quand même bossé avec différentes technologies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste des mecs qui sont mis autour d'une table pour bosser là-dessus. Ils ont aussi utilisé de l'algorithmie, des softs pour savoir quelles étaient les touches les plus utilisées, à quel moment, dans quel type de phrase, etc., pour décider comment il fallait mettre en avant certains caractères, en fait, et sur quelles touches. Donc, ils ont un gros boulot là-dessus. Le résultat final est expliqué dans un site qu'on vous link dans le billet qui accompagne le podcast. Site interactif qui est hyper bien fait. Hein. Vous voyez les interactions de chaque lettre, etc. C'est plutôt intéressant. Mais le fait est que moi, la problématique que j'ai avec cette approche, c'est que on est sur un clavier qui essaye de contenter tout le monde. Donc forcément, y a des gens qui sont déçus. Il y a des programmeurs qui râlent déjà, puisque par exemple les accolades, sont pas accessibles aussi facilement qu'ils auraient voulu, par exemple. En revanche, on a enfin des parenthèses et des crochets qui sont accessibles relativement facilement et avec des touches logiques, hein, pas des trucs qui sont à 15 km l'une de l'autre. Donc merci, il était temps. Mais bon, le problème, c'est que tous les gens qui ont besoin d'une disposition pour coder, ils sont déjà partis sur du QWERTY international pour les trois quarts, qui est beaucoup plus efficace et qui restera, et c'est bien le problème, plus efficace que la version proposée sur l'AZERTY. Donc bon, c'est mieux. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut l'utiliser. J'espère que ça va s'imposer. Et on verra comment ça va se passer. A priori, par exemple, les achats d'ordinateurs par les administrations, etc., vont imposer ce type de clavier. C'est une keymap. Hein. Enfin, je veux dire, techniquement, il faut imprimer les bonnes touches et échanger et rajouter des keymaps dans les OS. C'est vraiment pas compliqué à implémenter. Moi, j'ai ma propre keymap à moi. Tu vois, donc déjà, si je peux la faire la mienne dans mon coin, on peut faire un truc officiel assez facilement. Après, il faut pas oublier que dans les recommandations, ils avaient aussi le BPO, donc une variante qui est censé accélérer encore la vitesse de frappe et surtout ne pas bouger ses mains du tout du clavier qu'on est en train de frapper. Alors quand je dis pas bouger ses mains, ça veut dire que en gros la position des touches est faite pour que la paume de vos mains n'ait pas à se balader sans arrêt quand vous êtes en train de taper les mots même compliqués, et que vous puissiez tous avoir sous les doigts les touches les plus communes dans nos mots français tombent sous les doigts plus facilement, en fait. C'est un truc qui est adapté du Dvorak anglais, et le problème, c'est que c'est une bonne idée sur le papier, mais c'est extrêmement chiant de se réentraîner quand on sait très bien taper sur de l'AZERTY ou du QWERTY. Passer au BPO, c'est c'est apprendre une langue étrangère, hein.
Oui, c'est ça.
Et puis un truc compliqué, tu vois, plutôt du chinois avec des tonalités qui changent et tout ça, ça va être la merde. Donc c'est très 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 frustrant. Faut voir qu'on passe pour quelqu'un qui bosse à 80-90 mots minutes, tu vas tomber à 10, voire moins, et ça va pas te faire rire du tout. Et il y a peu de gens qui peuvent se permettre de se dire je vais apprendre le soir.
C'est ça. Ouais.
La mémoire musculaire fonctionne de telle manière que si tu commences à essayer juste d'apprendre le soir, mais que toute la journée tu bosses en AZERTY, tu vas pas progresser ou très peu. Et puis en plus, tu vas commencer à faire des fautes en AZERTY, ton cerveau va faire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc c'est vraiment pas pratique. Et se dire qu'on va switcher et ne pas pouvoir être efficace au boulot pendant X temps, c'est juste pas possible, quoi. Donc il y a plein de gens qui lâchent l'affaire assez vite. Donc c'est pour ça que cet AZERTY modifié, qui est beaucoup plus facile d'accès, avec des quelques touches à réapprendre, c'est quand même moins contraignant. Et donc voilà, je pense que ça va encore évoluer. D'ailleurs, c'est marqué, hein, dans le truc de l'AFNOR, les mecs se disent si c'est un premier jet, c'est pas comme ça que c'est dit, mais en gros, cette norme est pas vouée à être figée. Si jamais il y a un truc qui coince ou il y a des choses à faire évoluer au fil du temps, ils veulent pas attendre 100 ans cette fois, tu vois, donc ce qui est tout à leur honneur. Donc on verra bien ce que ça ça donne et on verra bien comment l'industrie suit. Moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont adapter ce truc-là sur leur clavier sans attendre les trucs officiels. Moi, j'ai des claviers blancs, donc sans rien sur les touches.
Ouais, tout à fait.
Pour moi, c'est très très facile de le mettre et puis j'ai pas un truc sous les yeux qui va essayer de m'enduire d'erreur à tout moment. Donc non, franchement, tentez le coup. Allez voir en tout cas sur le site qui est linké sur la news. Vous avez vraiment toutes les explications et vous verrez un petit peu tout ce qui est recommandé. Moi, je pense qu'ils ont été un petit peu trop loin sur certains trucs, tu vois.
Ouais.
Genre le point médian, on s'en fout un peu. Alors c'est vrai. L'écriture inclusive, blabla, mais comme je n'aime pas du tout l'écriture inclusive et qu'un truc qui peut pas se lire à voix haute, je peux pas être pour. On verra bien pourquoi ils l'ont mis. Ils nous ont sorti tous les tirets de la langue française que personne n'utilise jamais.
C'est ça, ouais.
Alors, je sais pourquoi, parce que les fans de langue française, voilà, normalement, une liaison, enfin, on a trois tirets différents en langue française. Bon, le problème, c'est que déjà, vous êtes hyper fort si vous faites la différence à l'œil nul, donc.
Non, et puis en plus, les logiciels de traitement de texte, la plupart font la correction automatiquement en fonction de l'endroit où tu mets ton tiret, donc c'est pas super utile, quoi.
Mais ça, c'est des trucs qui sont, par exemple, les gens qui tapent, enfin, nos amis japonais, par exemple, ont des claviers avec pas tout forcément sous la main, mais qui sont compensés par des traitements de texte qui vont faire le boulot pour eux, entre guillemets. Donc, pour moi, tu vois, par exemple, taper trois points, que ça soit transformé dans un caractère, trois petits points, bon, bah, j'ai l'habitude. Enfin, pour moi, c'est le juste logique et ça me choque pas. Donc voilà, maintenant, on va avoir une touche peut-être en trois petits points. Bon, bah, très bien. Il y a plein de trucs où je suis pas persuadé que ça sera très, très, très utile. Faut quand même rappeler qu'une grande partie de notre population ne fait pas la différence entre ça et ça, c'est dit et ça, ou, enfin, l'appartenance, c'est compliqué, c'est.
Du coup, je suis pas sûr que le clavier va arranger les choses.
Hein. Bah, voilà, non, je veux dire. Tu vois, qu'on en dit, oui, maintenant, alors attention, il y a trois tirets, alors c'est important. Mais alors, non, ce qui sera important, en fait, c'est déjà d'avoir une concordance des temps qui me fasse pas saigner les oreilles.
C'est ça.
On n'en est pas là, donc voilà, on verra bien. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut faire un nivellement par le bas. Donc c'est une progression intéressante, mais il y a des trucs où je pense qu'ils ont été un petit peu trop loin. On verra bien ce que ça donne.
Voilà, on vous linkera donc le papier qui va bien et qui explique tout ça du côté de chez Valve, des news avec un casque VR maison.
Ouais, un casque VR, la VR n'est pas morte, les enfants.
Mais
ça
si,
continue.
Mais il faut arrêter avec la VR.
Ah, moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'en ai rien à foutre, mais en fait, ils ont fait un teasing d'un casque qui sera donc annoncé au mois de mai, qui va s'appeler le Valve Index. Pourquoi pas. Les specs ont moyennement linké aussi. On parle de 135 degrés d'angle de vision. On parle des écrans avec 2880 par 1600 de résolution. Donc, on est sur un truc moderne, entre guillemets,
haut de gamme,
haut de gamme qui va aller concurrencer intérêt, enfin normalement on va dire les Vive et autres Oculus. On n'a pas plus d'infos, il y a plein de rumeurs sur du tracking infrarouge, etc. On ne sait pas vraiment qui le construit aussi. A priori c'est pas acheté, c'est bon, ok, normal. Mais du coup je suis assez étonné, je vous avouerai, de voir débarquer ça un petit peu de nulle part. Il y avait une grosse pub, j'ai même cru à un moment, mais c'est le truc du 1er avril, comment ça se passe? Mais c'est sorti avant, donc bon, a priori non, hein, mais bon, si on sait pas, des fois tu te dis, ils ont peut-être leaké la page du 1er avril, il se passe des choses bizarres sur internet. Mais écoutez, on va attendre la version finale, entre guillemets, avec l'annonce complète, mais ça me faisait marrer de vous en parler, puisque les mecs derrière ont dit, mais alors, qu'est-ce qui va motiver l'achat de ce casque? Est-ce que ça serait pas la version VR de Half-Life? Et là, j'ai rigolé parce que je me suis dit, t'imagines, les mecs, s'ils sortent un Half-Life en VR juste pour ça, je pense que là, j'ai fait exprès d'acheter tous mes jeux sur le Epic Game Store, quoi, tu vois.
Pareil.
Ça sera la guerre, les mecs, hein, je vous préviens. Donc voilà, mais c'est tout. On manque d'informations, mais ça m'a fait marrer de voir ça présenté un petit peu partout. Et j'avoue qu'effectivement, je ne m'y attendais pas non plus.
Et puis, ça va faire plaisir à plein de gens et c'est le retour du rant.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Avec un rant, du coup, sur Apple, en plus, surprenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait de mal?
Qui aime bien, châtie bien.
C'est ça.
Puis ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ce petit jingle, là, ça me fait plaisir. non, franchement, je rigole parce que, alors, tu n'as pas suivi, mais il y a plusieurs trucs qui se passent en même temps. Et là, on se dit, putain, les gars, vous commencez à nous fatiguer. Il va falloir faire des efforts. Donc, là, la problématique, elle concerne, par exemple, les claviers de leur dernier MacBook.
Ouais, ouais.
Alors, c'est génial parce qu'en fait, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut rappeler la problématique. Sur les derniers MacBook, ils ont un nouveau système de clavier avec des touches, avec des switches papillons, si je dis pas de bêtises. Il y avait des switches ciseaux et maintenant on a des switches papillons. Donc le nouveau switch papillon, c'est de la merde. Et il y a un moment où, quand c'est vraiment de la merde, je déteste le toucher de ces claviers. Hein. C'est pour faire des claviers ultra plats, donc la course des touches est ultra courte, c'est extrêmement désagréable. Mais en plus, ils ont réussi à faire des claviers ultra bruyants, alors que la course est ultra courte, ce qui est quand même très con. Il y a plein de gens que ça a déteint. Enfin, tu vois, il y avait un journaliste qui expliquait, mais moi, quand je tape un article, ma femme quitte la pièce. Alors que moi, j'ai des claviers mécaniques, mais qui font plus de bruit, mais c'est pas un bruit chiant pareil. Je sais pas comment expliquer ça. Il est pas dérangeant de la même manière, tu vois. Et là, c'est vraiment un truc où il y a les gens qu'on en ras le bol, donc ils le détestent. Mais ça, mis à part, le problème, c'est que ce truc-là n'est pas fiable. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la poussière ou une saloperie qui rentre dedans, ça bloque la touche et ça ne fonctionne plus. Et donc, Apple a essayé de corriger le tir sur la dernière génération de MacBook Pro en mettant une membrane en silicone pour protéger les switches sur chaque touche. Alors ça fait moins de bruit, point positif. Ça fait toujours du bruit, point négatif. Et puis surtout, en fait, ça ne fonctionne pas tant que ça, puisqu'il y a toujours plein de portables qui déconnent. Et là où c'est parti en vrille, c'est quand Apple a fait genre, ah, mais c'est bon, vous faites chier, vous êtes deux ou trois, quoi. Et là, t'as tous les fans d'Apple qui sont sortis du bois en faisant genre, tu te fous de ma gueule? Ça fait quatre fois que je fais réparer mon clavier, mon truc, je l'ai payé 2500 boules, et ça ne marche pas, ce n'est pas normal, ce qui n'est pas faux. Et puis là, t'as un mec qui, par exemple, les patrons de boîtes comme Basecamp, alors c'est une boîte qui fait un outil un petit peu comme le ClickUp qu'on utilise pour bosser ensemble, mais c'est une vieille boîte qui fait des logiciels, des services pour que les teams fassent de la coopération, puissent travailler ensemble. C'est les fans de produits Apple depuis bien longtemps, et le mec annonce écoutez, c'est super, mais nous, c'est bizarre parce qu'on a quand même 30% des machines en panne chez nous. 30%, ça fait beaucoup, tu vois. Alors, je sais pas combien il y a d'employés, mais ils sont pas deux, les mecs, tu vois. Donc, déjà, il y a une sorte de grogne avec des gens qui demandent d'un côté un rappel, ou en tout cas une prise en charge de la garantie par Apple étendue, ce qui me paraît pas débile et un peu la base. Donc, on verra ce qui est décidé, parce que là, ça commence à grogner de tous les côtés. Et puis, il y a d'autres qui font encore pire en disant, mais écoute, bon, les mecs, c'est génial, t'as fait ton clavier de merde, t'es content, maintenant tu le changes. Il ne marche pas, il faut arrêter, donc il est temps. Et pour le moment, écoute, je pense que le prochain MacBook Pro va sortir avec un clavier awesome qui va toujours ne pas marcher avec le putain de même switch, et il faut arrêter avec ce truc-là. Donc je pense que ça va être intéressant. Et puis l'autre truc, c'était rigolo, c'était un truc autour des innovations en général, et ce qui m'a agacé, parce que d'habitude, si tu veux, historiquement, sur les portables Apple, toujours eux, on a des power bricks, enfin tu sais, les adaptateurs, les chargeurs,
ouais,
qui sont vachement bien avec les petites ailettes où tu peux enrouler ton câble. On avait MagSafe qui permet d'avoir le truc qui est collé magnétiquement à ton Mac, et si tu prends les pieds dans le câble, et ça emmène pas ta bécane avec.
Ce qui ne m'arrive jamais.
Voilà, toi, jamais, parce que t'es un mec agile, t'es une sorte de ninja de la table basse, tu c'est te ça. Cognes jamais et tu n'en prends jamais les pieds dans les câbles.
Ninja de la table basse, je pense que je vais garder ça.
C'est un skill hyper important pour pas avoir des bleus au tibia. Et voilà, on a tous une agilité légendaire. Donc forcément, c'était des trucs utiles, un peu comme la prise Xbox qui était en deux parties, qui se cassait au milieu. Là, c'était pas con, tu vois. Ouais. Et voilà. Donc sur les derniers modèles, tous ces trucs-là ont disparu petit à petit. On n'a plus de MagSafe parce qu'on est passé à l'USB-C, mais ils ont pris une prise USB-C classique. Ils ont pas essayé de réinventer un truc un peu intéressant. Donc merci Apple. Donc il y a maintenant des Kickstarter pour avoir des USB-C qui fonctionnent comme des MagSafe avec des trucs que tu rajoutes sur ta prise et sur ton Mac, donc c'est ultra moche, tu vas perdre des adaptateurs en 3 secondes, trop pratique. Et puis surtout il n'y a plus les ailettes pour enrouler ton cordon, donc ton truc il ressemble plus à rien. Et puis derrière, tu te retrouves avec des portables de chez Dell, tu vois, quand même pas les rois du design et de l'innovation, qui sort des XPS 13 pouces qui sont historiquement des très bons portables et qui là maintenant se payent des chargeurs avec des trucs pour enrouler le câble. Bon, alors tu le fais jamais parce que c'est chiant à faire, on est bien d'accord, mais leur système au moins il a le mérite d'exister, et avec des embouts adaptables et puis des power bricks toutes petites. Donc là tu te dis ça serait pas mal que sur des portables à 2500 boules de moyenne on ait au moins la même chose. Ça serait gentil, monsieur Apple. Et puis je veux finir parce que du côté des iPhones, donc t'achètes 1200 balles ton iPhone XS Max et tu as toujours un chargeur 5 watts avec. le chargeur qui met 2500 ans pour charger ton putain de téléphone. Pendant ce temps-là, t'as les Chinois qui arrivent avec des chargeurs à... alors là, le dernier, je crois que c'est Xiaomi. Alors, je sais jamais où il faut dire Xiaomi, j'aime pas. Xiaomi, voilà, parce que je suis français, je fais ce que je veux. Avec des chargeurs qui peuvent te remplir un téléphone à 80%. J'ai plus les chiffres, là, je vous le dis de tête, j'avais pas pris de notes. Parce que je n'avais pas prévu d'en parler, mais maintenant que je suis énervé et que je suis chaud, il faut en parler.
Ça va aider ta migraine, ça.
Écoute, ma migraine s'en va, tu vois, j'avais peut-être pas râlé assez. Ah, c'est magique. J'étais, tu vois, je devais être contrit. Non, je déconne, il est toujours là. Mais bref, tout ça pour dire que ça serait pas mal que Apple booste la taille de ses chargeurs avec ses iPhones au passage, surtout donc au prix où on les paye, sachant effectivement que dans la concurrence, on a maintenant des trucs qui sont capables de remplir des téléphones en 10 minutes, un quart d'heure, enfin, remplir. Disons que tu peux repartir facilement pour la journée, très très facilement, ce qui n'est pas le cas avec le chargeur de base de chez Apple, à tel point que les gens, ben, tu peux voir dans tous les bureaux, maintenant qu'on a des trucs, par exemple USB-C, il y a des gens qui ont des câbles Lightning USB-C, enfin, ou USB, et qui se branchent directement sur les chargeurs de leur Mac. Mais pas sur le Mac, hein, sur le chargeur du Mac direct, parce que ça marche plus vite. Moi, déjà, historiquement, j'utilisais le chargeur de mon iPad, par exemple, pour aller plus vite. Donc, bon, je crois que tout le monde est saoulé par la situation, et encore une fois, c'est pas comme si les mecs te vendaient des téléphones pas chers et que tu comprennes qu'il faut qu'ils sauvetardent.
Il faut qu'ils rabotent, ouais.
Bah, il faut sauver les marges, c'est compliqué, tu vois. Donc, non, sauver les marges, oui, bah, apparemment, ça, il y a du monde, mais bah, là, ça commence à se voir, donc j'espère qu'ils vont se réveiller, parce que on est sur les deux dernières années, là, on est une sorte de... d'empilement de petits agacements, si tu veux, ça va commencer à péter un câble, et je te cache pas que s'il y avait pas l'écosystème avec des applications vraiment fabuleuses que j'adore chez les deux trucs, t'as un moment où tu te dis
quand je dis des trucs, c'est face,
Mac, voilà, tu te dis putain, Android, bon, alors bon, c'est vraiment de la merde et j'aime vraiment pas ça, mais là je suis vraiment saoulé. Alors après tu regrettes, hein, parce que tous mes potes qui ont fait ça, ils sont revenus l'année d'après en mode genre oh non, fallait pas y aller. Bon, c'est une problématique quand t'es habitué à plein de choses, et surtout, je te dis encore une fois, à l'écosystème soft, c'est un peu compliqué de se barrer, mais bon, les autres en profitent un petit peu, tu vois, ça joue beaucoup sur l'inertie, et chez côté Google aussi, hein, t'inquiète pas. Ouais. Là je voyais des screenshots de potes avec, tu vois, toute la barre en haut, c'est que des outils Google, je fais ok, c'est très bien. C'est, tu vois, tu te fais chier sur Geekzone à faire des tests utilitaires. Tu sais que les mecs, ils utiliseront jamais autre chose que Google Doc. T'es là genre, ok, bah écoutez, super, c'était juste, c'était good talk. Je suis hyper content qu'on en ait parlé. Sinon, tu sais qu'on fait nos tests de trucs de prise de notes, etc. Tu vois, les mecs en train d'utiliser Google Keep, qui est quand même le niveau zéro de l'outil prise de notes. C'est de la merde. Hein.
Les gens sont décourageants, en fait. Hein.
Bah voilà, donc t'es là genre, ouais, mais c'est sur Google, alors c'est pratique et tout. C'est tu vois, l'inertie. Et donc, bon, ils sont tous à exploiter ce petit point faible de l'humanité. Et je vous cache pas que ça m'agace au plus haut point.
Et c'est la fin de ce 85e épisode de Torréfaction. Bah tu vois, on y sera arrivé finalement sans trop de problèmes. Hein.
Ouais, génial. Moi, je suis au top et là, je vais aller courir.
Okay.
Non, je déconne, je vais aller mourir sur ma couette. Je déconnais tout à l'heure, le mal de tête, mais franchement, on est passé au 9 gradé, on est passé du nain à la perceuse.
C'est parce que tu t'es énervé, ça.
C'est la tension, c'est pas bon à notre âge. Ah non, c'est pas bon à notre âge.
Allez, bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.